Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
L'ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement finance 31 micro-projets dans le territoire de Djougou en Ituri. Ces projets visent à promouvoir l'autonomisation des communautés locales. Sécurité des déplacements à pied et à vélo, c'est le thème de la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Il s'ouvre dans le monde entier. L'OMS s'est joint à des centaines d'organisations et des gouvernements dans cette campagne pour exiger une action urgente en matière de sécurité routière. Et puis, une dizaine de communicants issus des partis politiques de la majorité et de l'opposition s'engagent à promouvoir des discours unificateurs et apaisés dans leurs interventions publiques. Engagement pris hier à Kinshasa à l'issue d'un atelier. Pour en parler, nous recevons Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. À tous et à toutes, bonjour. En Ituri, 31 micro-projets des initiatives locales bénéficient de l'appui financier de l'ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Selon le coordonnateur des urgences de cette ONG, ces projets s'exécutent dans les zones de santé de Djiba et Drodro dans le territoire de Djougou. Ils visent à promouvoir l'autonomisation des communautés locales. Sadiki Aboubakar nous en dit plus.
Ce projet a pour objectif d'accompagner les communautés pour la gouvernance locale, des associations et organisations locales qui, déjà exécutées des mini-projets avec les moyens du bord, ont bénéficié d'un financement dépassant les 6 500 $ américains. C'est le cas de Symphorien Zalilovi, président du Centre d'alphabétisation Uemacho, qui exprime sa satisfaction.
Notre centre n'avait pas de bâtiment propre, mais grâce à ce financement, nous aurons un bâtiment, ce qui va améliorer notre condition de travail et bénéficier ainsi à toute la communauté.
Georgette Mandessi, leader communautaire, affirme que ce soutien financier va aider à répondre à plusieurs besoins communautaires pour le développement de leurs entités. Michel Lamy, coordonnateur des urgences au sein de l'ONG ADSS, explique l'objectif du projet.
On veut que les communautés, à travers les groupes qui existent déjà et qui font des choses sans attendre l'aide humanitaire, que ces communautés-là puissent être appuyées avec du cash. Nous les accompagnons en matière de comment gérer un projet. Nous leur montrons également comment analyser les risques qui auront été identifiés en amont.
Ce projet a été financé par le Fonds humanitaire en RDC. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Du côté du Sud Kivu, environ 5 880 ménages des déplacés et retournés de Calais bénéficient de l'assistance alimentaire et des biens essentiels de ménage. L'opération a démarré mardi 13 mai à Luako en attendant de se poursuivre à Muongoza puis à Niabibwe. Reportage de Ronéline Tibonera.
Le CICR Sud Kivu indique que la durée va s'étendre sur plusieurs jours. Chaque ménage reçoit 25 kg de farine de maïs, 12,5 kg de haricots, 5 litres d'huile végétale et 1,5 kg de sel de cuisine. En plus de vivres, le CICR distribue des biens essentiels de ménage composés des couvertures, des nappes, des casseroles, des assiettes et d'autres ustensiles de cuisine. Des pièces d'habits pour dames font aussi partie des kits reçus. La déléguée au CICR, Diaratu Bamba, revient sur la motivation de leur action.
CICR, à la suite d'une évaluation de la situation et des besoins de ces populations déplacées, retournées par la suite, a constaté une situation difficile pour ces ménages retournés et déplacés qui sont en difficulté de consommation alimentaire en ce moment. Il manque aussi des biens essentiels des ménages. Voilà pourquoi le CICR a initié cette assistance.
La plupart des nécessiteux sont des victimes de la catastrophe du 4 mai 2023 à Kalehe et dont la vulnérabilité s'était accrue avec la guerre de l'AFC 123 soutenue par le Rwanda.
Dans l'actualité aussi, signature hier mercredi à Kinshasa d'un accord de partenariat entre la Commission nationale des réfugiés, CNR, et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFRA. L'objectif est de renforcer les capacités de la CNR dans la gestion des réfugiés. Mais dans le concret, qu'est-ce qui va se passer, Étienne Lissumbu?
Pour Eric Mukandila Malou, secrétaire permanent de la CNR, ce partenariat permettra notamment la formation des agents en vue d'améliorer la performance de son organisation.
Si vous avez entendu ce que la directrice de cabinet, le directeur général de l'OFRA a dit, ils ont une longue expérience. L'OFRA existe depuis 1952 et nous avons été créés il y a une vingtaine d'années. Et donc je pense et je souhaite que ce soit un partenariat de longue portée et que nos échanges soient vraiment fructueux en termes de connaissances et des stages au niveau de l'OFRA et pourquoi pas eux aussi venir apprendre comment nous gérons les réfugiés, les demandeurs d'asile sur notre territoire national.
Pour Sophie Pelagasco, représentante de l'OFPRA, son organisation qui a déjà 5 ans, 6 ans d'expérience dans le secteur, contribuera à faire évoluer la gestion des réfugiés par la CNR.
Et donc aujourd'hui, on est fort d'une administration de l'asile qui est vraiment robuste et qui s'appuie sur des procédures vraiment élaborées.
Vu l'ampleur du travail dans ce secteur, ce partenariat va s'étendre dans la durée, selon les secrétaires permanents de la CNR.
Autre nouvelle, en Ituri, une trentaine des participants, dont des chefs coutumiers ainsi que des agents du PDDRCS, prennent part depuis hier à Bounia à un séminaire de renforcement des capacités sur la justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité. Cette rencontre est organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et a pour but d'arrêter le cycle de violence et préserver le vivre ensemble dans cette province. Les autorités provinciales saluent cette initiative pour la stabilité de l'Ituri. Ezekiel Mouzalia nous fait le point.
Les notions sur les mécanismes des poursuites judiciaires, des recherches et des vérités sur les crimes contre l'humanité ainsi que la réparation des victimes font l'objet des échanges depuis ce mercredi entre les responsables des structures de défense des droits humains et les experts du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme BCNUDH de la MONUSCO venu de Kinshasa. Ces mécanismes font de la justice transitionnelle un élément moteur pour obtenir la réconciliation des communautés, comme l'a dit le chef des bureaux adjoints de la MONUSCO à Bounia, Léopold Nyonki.
PDDRCS est un très beau programme, mais pour le peaufiner, la justice transitionnelle devient un élément central parce que cette justice est une condition sine qua non par rapport à la réconciliation.
Le coordonnateur provincial du PDDRCS soutient que cette rencontre vient renforcer une fois de plus le niveau de compréhension des participants des concepts de résolution des conflits à travers le dialogue. Le commandant de la 32e région militaire qui a représenté les gouverneurs des provinces à l'ouverture de cette formation a émis les vœux de voir un dialogue franc et sincère pouvant aboutir au pardon mutuel et à la réconciliation pour une paix définitive en province. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, la voix de la RDC résonne à la conférence ministérielle de Berlin, axée sur l'avenir des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui conduit la délégation congolaise, a engagé mardi des discussions stratégiques avec des hauts responsables onusiens, dont la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, et les autres hauts responsables de l'ONU. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de ces forums de paix, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a mis en lumière les défis spécifiques auxquels la RDC est confrontée en matière de sécurité. Guy Kabombo Modianvita a plaidé pour les renforcements des partenariats internationaux en faveur de Kinshasa. En marge de cette conférence, le patron de la Défense nationale a également tenu des réunions bilatérales avec les ministres fédéraux allemands des Affaires étrangères et de la Défense, Johann Wadepool et Boris Pistorius. Ces échanges ont porté sur les renforcements de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Berlin, notamment dans les domaines de la sécurité, de la réforme du secteur de la défense et du soutien aux missions de maintien de la paix. La participation active de la RDC à ces discussions témoigne de son engagement à contribuer à la stabilité régionale et mondiale.
À Kisangani, les acteurs de la société civile sont sensibilisés pour prévenir d'éventuelles violences dues aux discours de haine et la désinformation pendant la période électorale et post-électorale. Cette activité est organisée par Congo Peace Network, une ONG basée à Goma, au Nord Kivu. Une centaine de personnes suivent cette activité dont l'objectif est notamment de consolider la cohésion nationale, la cohésion sociale pour le mieux vivre ensemble dans cet espace victime de conflits et de tensions sociales durant plusieurs plusieurs années. Cette sensibilisation qui cible particulièrement les jeunes, les victimes des guerres et des violences enregistrées régulièrement pendant les périodes électorales et post-électorales, concerne dans un premier temps les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et la Tchopo avant de s'étendre dans d'autres provinces de la RDC. Dans l'actualité aussi, l'accès limité à l'électricité dans la partie Grand Nord du Nord Kivu était au centre d'une rencontre hier à Beni, initiée par le gouverneur de province, le général Évariste Kakule Somo. Cette rencontre a réuni les responsables des sociétés publiques et privées d'énergie, les chefs coutumiers, les représentants de la société civile de Beni, Boutembo et Lubero, ainsi que des autorités locales et des membres de la MONUSCO. David Kamua, coordonnateur principal de la province et conseiller du gouverneur en matière des finances, insiste sur l'importance de la mise en place d'une stratégie concertée pour faciliter l'accès des populations à l'électricité. David Kamua est au micro de Marc Marofimbo.
Le contraste est que, malgré cette libéralisation, on continue à constater que la population n'arrive toujours pas à accéder à l'électricité, malgré les efforts conjugués des uns et des autres pour investir dans ce secteur. Nous avons estimé qu'il est important de mutualiser nos intelligences pour qu'ensemble nous puissions arriver à définir une politique stratégique de desserte en électricité en faveur de nos populations. Voilà pourquoi nous avons pensé utile que la société civile, qui représente toute la communauté, puisse s'exprimer pour donner ses points de vue par rapport à l'état actuel des dessertes en électricité en faveur de la population. Et chaque société va essayer de nous donner sa vision en créant ENK, en créant Virunga Énergie, en créant ceci ou cela. Quelle est votre vision que vous aviez par rapport à cette problématique? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas possible de mutualiser nos visions pour que nous en fassions une vision collective en faveur de notre population, malgré nos oppositions, que nous puissions quand même voir l'intérêt général.
Autre nouvelle, la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière s'ouvre dans le monde entier sous le thème « Sécurité des déplacements à pied et à vélo ». L'Organisation mondiale de la santé OMS a lancé une nouvelle boîte à outils pour aider les gouvernements à promouvoir la mobilité active tout en renforçant la sécurité. Explication avec vous, Stanislas Diumi.
Chaque année, près de 1,2 million de personnes perdent la vie sur les routes, dont plus d'un quart lorsqu'elles se déplacent à pied ou à vélo. Pourtant, 0,2% des routes dans le monde seulement sont équipées des pistes cyclables et les communautés sont beaucoup trop nombreuses à ne pas disposer des services de base comme des trottoirs ou de passages piétons sûrs. La marche et les vélos sont bons pour la santé et rendent les vies le plus durable. Chaque pas et chaque coup de pédale contribuent à réduire les embouteillages, la pollution de l'air et les maladies, a déclaré le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS. Mais nous devons garantir la sécurité des déplacements à pied et à vélo pour que davantage de personnes optent pour ces moyens de transport plus sains et plus écologiques.
Actualité internationale. Au Mali, une centaine de personnes ont manifesté mardi et hier mercredi à Diafara Bay, dans le centre du Mali, pour protester contre la disparition d'une vingtaine de personnes à la suite d'une opération conduite en début de semaine dans la localité par des soldats maliens. Alors que l'armée n'a donné aucun détail sur son intervention, les familles, toujours sans nouvelles de leurs proches, craignent qu'ils aient été exécutés.
L'invité.
Les communicateurs des partis politiques ont un rôle essentiel à jouer dans l'apaisement du climat social et la consolidation de l'unité nationale. C'est la conviction de Christian Moleka, initiateur d'un atelier de renforcement des capacités sur la communication politique constructive axée sur la cohésion nationale, atelier tenu hier mercredi à Kinshasa. Pour lui, ses porte-paroles doivent impérativement privilégier des discours fédérateurs qui promeuvent les valeurs de leur parti plutôt que de servir de relais à la désinformation ou à des propos menaçant la cohésion sociale et nationale. Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, s'entretient avec Ronéline Tibonera.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Une session de renforcement des capacités sur la communication politique constructive et cohésion nationale, quid de son opportunité en cette période post-électorale?
C'est un moment important parce que nous sommes dans une de ces périodes de grande fragilité où les tensions sécuritaires, les tensions de la guerre aujourd'hui ont de la répercussion dans l'espace des communications. Et donc comment les communicateurs, qui sont des canaux très importants d'information de l'opinion, participent par leur agir à améliorer tant la compréhension politique, mais surtout à créer un climat d'apaisement. Le but de la formation était celle-là, c'est de renforcer les communicateurs pour qu'ils soient des vecteurs d'un discours plus constructif, qui renforce le vivre ensemble et la cohabitation et l'apaisement, plutôt que de construire un discours essentiellement agonistique, stérile, et qui parfois renforce la polarisation et les clivages.
Quel impact durable cette formation peut-elle avoir sur les pratiques politiques en République démocratique du Congo, notamment en termes de cohésion nationale?
C'est un long processus que nous commençons aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas d'espérer d'un seul trait changer toutes les choses. Mais nous avons commencé un travail qui doit se pérenniser, à savoir renforcer suffisamment en capacité les communicateurs, les responsabiliser déjà sur la prise de parole publique qu'ils font, sur l'incidence de leurs propos dans la construction ou la déconstruction sociale, et après, de manière permanente, ramener et les communicateurs et les partis politiques à jouer ce rôle des vecteurs positifs dans un contexte politique marqué par beaucoup de fragilité.
En République démocratique du Congo, la politique est souvent perçue comme un enjeu de rivalité. Comment cette formation peut-elle aider à en faire un levier d'unité?
Bon, nous avons déjà rappelé aux participants que effectivement la politique est conflictualité, mais conflictualité des accords institutionnalisés qui permet en même temps de construire un ensemble plus grand qu'un système politique. Autant il y a des partis, autant ces partis résident sur le partage d'un même État, le partage d'un même concept républicain et le partage d'un même espace politique. Et donc il y a certes un positionnement comme acteur à maintenir, mais en même temps l'équilibre d'un système à préserver. Et donc le but de la formation, c'est de montrer aux politiques qu'il y a ce double levier à prendre en compte, à savoir la logique partisane qui doit exister, mais dans un cadre républicain. Et donc on ne peut pas utiliser le partisan pour fragiliser la République. On doit à la fois construire les partisans et garantir la stabilité de la République.
Des discours politiques, bien sûr, ou la communication politique, mais entre États, les médias aussi sont des acteurs clés dans cette dynamique. En assistant à cette session, ils ont été mis de côté. Est-ce que ce n'est pas un défi dans votre organisation?
C'est un défi important parce que les communicateurs politiques ne sont que l'un des versants des acteurs qui émettent ce secteur-là. On l'a relevé, il y a les médias, il y a des électrons libres qu'on appelle des influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a des acteurs anonymes sur le numérique. Donc nous avons commencé un processus par des communicateurs plus ou moins officiels des partis. Cette démarche va s'étendre, peut-être pas, pourquoi pas demain, à ce qu'on appelle journalistes politiques, qui sont ceux qui reçoivent les communicateurs, pour avoir une dynamique plus large, qui prenne en compte les différents acteurs. Mais c'était un début aujourd'hui de commencer par les communicateurs officiels, quitte à ce que dans la dynamique, on l'étende également à d'autres acteurs, dont les chefs de parti eux-mêmes également.
Est-ce qu'il y a de projections dans l'avenir pour outiller ces communicateurs à ne pas tomber dans la manipulation, voire même dans des discours de haine?
Effectivement, l'une des questions qui était soulevée, c'était de la désinformation, les fake news. Et on a senti également ce besoin de beaucoup d'acteurs des partis politiques à mieux comprendre les mécanismes du fact-checking. Et donc, nous sommes en train de projeter, pourquoi pas demain, organiser au sein des partis des formations sur le fact-checking et aider certains partis à mettre en place des mécanismes de fact-checking pour pouvoir en interne travailler à construire une information saine. Mais également, nous avons essayé de les présenter, les différents acteurs de fact-checking existants déjà. On peut penser aux acteurs publics, aux privés, qui aujourd'hui mettent sur la place publique des outils de fact-checking. C'est à eux, avec les informations qu'on leur a données, de savoir les utiliser pour ne pas tomber dans les pièges de la désinformation.
Là où on a plus besoin de la cohésion, c'est dans les villages, dans les zones à risque. Vous organisez ce genre d'activités à Kinshasa. N'est-ce pas un grand défi où vous abandonnez carrément les zones, par exemple, qui sont occupées?
La prétention du projet, c'est également d'aller en province. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires sur la possibilité d'avoir un tel projet à Kisangani ou en Ituri. Mais c'est également un défi logistique. Nous commençons à Kinshasa, utilisons également les médias tels que vous pour amplifier l'écho de ce qui a été fait à Kinshasa, même si les ressources sont très modestes. Mais je crois qu'au fil de temps, nous allons également travailler à multiplier ce genre d'activités en province pour toucher un peu plus de gens. L'avantage de Kinshasa, c'est que nous réunissons pratiquement les partis de tous les horizons, les leaders de tous les horizons, et donc à travers ce microcosme-là, on peut indirectement toucher d'autres acteurs, même si je reconnais que le besoin d'aller en province est un besoin réel et qu'il faudra trouver certainement des ressources pour y répondre.
Christian Moleka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité, coordonnateur de DIPOL, Dynamique des politologues de la RDC. Il s'entretenait avec Ronelli Ntibonera. Par ici prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Jean-Claude Siala à la mise en onde. Merci de votre attention.